88.4 Radio Galère.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Kixa. Aujourd'hui, je suis en studio avec Luigi. Salut Luigi.
Salut.
Et on invite Benoît Gaudin. Comment vas-tu, Benoît ?
Salut Luigi. Salut Élise. Merci pour l'invitation. Bon, ça va pas mal, écoute. Il fait relativement frais dans les studios de Radio Galère.
C'est-à-dire qu'il fait que 43 degrés. Donc Benoît, tu es une personne très plurielle puisque tu es...
Bon, dis donc, on n'avait jamais dit ça.
T'as vu, c'est des beaux mots. Hein. Puisque tu es le co-animateur de l'émission Mardi Namouk sur Radio Galère, qui je suppose est le mardi.
Eh oui, tout à fait. Sinon... c'est le premier mardi du mois, voilà. À 21h.
Qui est une émission musicale.
Oui, c'est ça, c'est une émission, on se fait plaisir avec mon collègue DJ José, on passe des morceaux de musique autour d'un thème à tour de rôle, mais on se les dit pas avant, donc on a juste le thème, on choisit notre petite selecta et puis on arrive et on passe les morceaux chacun notre tour. Donc il y a des petits doublons de temps en temps, mais pas tant que ça.
Oh, wow.
Voilà, on se fait des petites surprises, voilà. C'est une émission plaisir.
Ça doit être fun les petits doublons, genre ah, on a pensé au même
truc. Ah bah
truc.
Celui-là, c'est celui qui passe en premier à gagner quoi. C'est...
Ouais. et celui qui arrive en deuxième, il est en panique. Genre, vous prévoyez un deuxième au cas où?
Ouais, on a toujours plus de morceaux qu'on ne peut passer. L'émission dure 2 heures, mais en réalité, on a toujours plein de morceaux avec lesquels on repart. On se dit souvent qu'on reviendra sur le thème dans une émission suivante, mais finalement, il y a toujours un nouveau thème. Pour le moment, on n'a jamais encore doublé les thèmes.
Ouais, en fait, il faudrait limite faire un doc avec tous les fins d'émission que tu n'as pas pu faire pour faire une émission entière.
Ah, ben c'est sûr, il faudrait qu'on fasse là. Non, non, mais qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a fait le sport, on a fait le grand âge, les vieux, on a fait le mal. Le mal, pour ça, c'est une émission pour Noël, le mal absolu.
Le mal, ah, okay, le mal, le démon.
Ouais,
ou
pas,
le...
Pas, pas mal masculin, le mal, le. Le diable, quoi. Voilà. Voilà.
Eh ben, écoutez, allez écouter du coup Mardi Namouk si le cœur vous en dit. Tu n'es pas seulement animateur de cette émission, tu es aussi un militant de l'association Survie, dont on pourra peut-être parler en fin d'émission si on a le temps. Mm-hmm. Et tu es aussi journaliste de presse écrite et de radio. Et tu es en partie spécialisé dans l'histoire et l'actualité kanak. Et donc, tu nous as pondu. Deux documentaires audio, donc le premier qui s'appelle Un martyr kanak et le deuxième, je n'ai plus mes notes.
Alors le premier s'appelle en réalité Pierre de Clerc, un martyr kanak, et on va en parler tout à l'heure, et le deuxième s'appelle Le combat ne doit pas cesser, et sous-titre Éloi Machoro, un super-héros pour kanaki. Et donc les deux reviennent en fait sur, c'est des séries, hein, il y en a un qui est en deux parties, hein, Pierre de Clerc c'est en deux parties, l'autre c'est carrément en 6 épisodes, donc c'est vraiment une série, et ça revient sur un des pans de la lutte d'indépendance portée par le peuple kanak, hein, donc c'est en Nouvelle-Calédonie évidemment. Le peuple kanak, c'est le peuple autochtone, hein, le peuple premier de Nouvelle-Calédonie. Ça revient donc sur des pans de l'histoire de cette lutte à travers donc, deux figures, Pierre de Clerc dans l'un et Éloi Machoro dans l'autre.
On peut retrouver sur YouTube du coup.
Alors non, pas sur YouTube, on les retrouve sur Internet à plusieurs endroits, mais le plus simple, c'est peut-être justement d'aller sur le site de l'association Survie, dont tu viens de parler, qui n'a pas produit du tout ces documentaires, mais qui aujourd'hui les diffuse. Ouais, tout à fait. C'est survie.org et il y a une petite rubrique publication et podcast, et dans les podcasts, vous pouvez retrouver ces deux documentaires. Voilà.
Et oui, c'est important si on veut aller les voir.
Voilà. Les écouter parce que
c'est du
podcast. Ouais, c'est des documentaires radiophoniques. Et Survie, je peux le dire en deux mots, c'est une association anticoloniale, hein, qui travaille contre le colonialisme et le néocolonialisme français, voilà, celui qui est opéré par l'État français. Donc ça a sa place de venir parler de lutte kanak et de figure de l'indépendantisme kanak sur le site de Survie.
Dans ma tête, Survie, c'est un truc marseillais, mais peut-être que je me trompe.
Ah oui, non, c'est national. Il y a effectivement un groupe local sur Marseille qui s'est reformé il n'y a pas si longtemps parce qu'il existait et puis il avait un peu attrapé un Covid long. Voilà, il y a eu besoin de remettre un peu de la force là-dedans, mais il y a un groupe local qui reprend depuis un ou deux ans, mais à la base c'est quand même une association qui existe au niveau national, et le site de survie.org, c'est le site de l'association au niveau national.
Donc aujourd'hui, on a décidé qu'on allait un peu essayé de parler de la montée du nationalisme en Nouvelle-Calédonie depuis les années 60. Et donc, pour resituer, parce que moi-même j'avais besoin de resituer un petit peu les grandes étapes de l'histoire nouvelle-calédonienne, kanak. Excusez-moi. 1, 2, 3, pouf, pouf. Donc, ce sont des populations qui sont originaires des populations néolithiques de l'Asie du Sud-Est qui datent d'au moins 8400 ans.
Ah oui, on remonte loin là.
On remonte loin. Les Européens arrivent avec leurs gros sabots et leurs grosses armes en 1774. Ça se fait un petit peu jusque à peu près dans fin du 18e, début du 19e. Et ce qui m'a marqué, parce que je ne vais pas refaire toutes les étapes, mais en tout cas, ce qui m'a marqué déjà, c'est quand je suis allée me renseigner uniquement sur Wikipédia, c'est la petitesse des pages, notamment sur l'histoire entière kanak, c'est-à-dire que c'est vous pouvez le lire en une demi-heure, je dirais, 40 minutes max, ce qui était assez choquant. Et puis je suis allée aussi sur la page Wikipédia de Pierre de Clercq, du coup, qui est né en 38 et mort assassiné en 81, et ça m'a encore plus choquée parce que en fait sa page Wikipédia entière tient en un paragraphe. Alors que c'est une figure qui est quand même très très importante.
Oui, mais mais ce que tu soulignes là, il y a sûrement plein de raisons à ça, mais il faut bien parler, bien penser qu'on parle d'un territoire qui est assez petit. Hein, c'est pas très grand la Nouvelle-Calédonie. C'est à l'autre bout du monde. C'est assez grand parce qu'il y a des îles encore plus petites autour, mais c'est un territoire qui est pas immense. J'ai pas le combien de mètres carrés ça fait en tête, de kilomètres carrés. Mais il faut imaginer que c'est 270 000 habitants aujourd'hui. Hein, ouais. Donc c'est évidemment, c'est un bout perdu dans le sud du Pacifique, à l'autre bout du monde, comme ça. Donc forcément, il y a beaucoup à écrire et à dire sur ce territoire, et encore. Ouais.
Aujourd'hui, la population, c'est 41% de Kanak, qui vient du mot haïtien Kanaka. Vous allez entendre dans les extraits qu'on va vous diffuser autour de pendant cette émission le mot oreille qui en créole veut dire un étranger, un métropolitain. On reviendra sur ce terme peut-être un peu plus tard. C'est un État qui légalement a droit à l'autodétermination, qui est un terme du droit international, c'est-à-dire que le peuple dispose ou devrait disposer du choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique indépendamment de toute influence étrangère. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué, où j'ai senti peut-être un petit écart entre ce que ça sous-entend dans la forme légale et la réalité du terrain. Et je vous propose peut-être qu'on écoute, dis-moi.
Attends, non, juste quand même, je précise, parce qu'effectivement, les Kanaks, donc c'est ce que je disais, c'est le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. Ils sont arrivés, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas clair pour les auditeurs et auditrices, ils sont arrivés il y a à peu près 3000 ans. Ouais. C'est les premiers humains qui viennent s'installer là, et c'était à peu près il y a 3000 ans. Voilà, donc c'est clairement les premiers occupants de ce animal excepté, hein, mais les premiers occupants humains de cet archipel du Pacifique Sud. Et effectivement, ils s'appellent Kanak aujourd'hui, ils se sont appropriés ce mot-là, mais parce qu'on les a appelés comme ça, c'est pas parce qu'ils sont allés chercher un mot du côté de des Polynésiens, hein, c'est que c'est les autres, les colons qui sont arrivés, qui ont appliqué au peuple qui était là, aux gens qui étaient là, ce terme qui était évidemment un terme éminemment raciste au départ. On arrive et on vous dit, les Kanaks, c'était comme dire les sauvages. En fait, les Kanaks, ça voulait dire les sauvages, quoi. Voilà. Et eux se sont réappropriés ce mot-là, mais assez récemment, hein. C'est dans les années, on va dire vraiment 70 que ça démarre. Peut-être fin des années 60, le début du mouvement. Et ils l'ont écrit maintenant, ils l'écrivent avec un K, hein. K au début, K à la fin. Et ils en ont fait une marque de fierté, une marque identitaire. Mais ça, c'est un mouvement, assez récent, quoi.
Est-ce qu'on s'écouterait pas le premier extrait, donc, du documentaire Pierre de Clercq, un martyr Kanak, qui a été évidemment choisi par tes soins? Attention, et c'est parti.
Oui, au fur et à mesure que le combat vers l'indépendance a pris son ampleur, ça nous a ouvert les yeux aussi.
Philibert Tawa.
On nous a tout pris. On a pris des terres, on a pris nos civilisations nous a tout pris et on a été relégués dans les montagnes, on nous a repoussés dans les montagnes comme du bétail. Et tout ce que c'est pour tous les c'est que pour les blancs. Alors les routes gaudronnées c'est pour les blancs, l'électricité c'est pour les blancs, l'eau courante c'est pour les blancs. D'ailleurs aujourd'hui il y en a encore des tribus qui n'ont pas encore l'eau courante. Alors on est obligé à ce moment-là de dire qu'il faut, là il faut vraiment changer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous on est resté très longtemps, même quand on était quand on luttait pour l'indépendance avec aux îles, avec la lampe à pétrole, même ici à Nouméa, ou avec les bougies. Nous, on allait à l'école avant ici à Nouméa, mais on faisait les devoirs à la lumière des bougies. Et on n'avait pas le courant, on n'avait rien du tout. Hein. C'était pas pour nous tout ça. Oui, il n'y avait rien. Personne ne disait, nous on est là, non. Il y avait aucune revendication du peuple kanak. On était parqués quelque part et puis on n'avait pas droit à la parole. Bon, même quand on a eu, à un moment donné, l'Union canadienne a eu les rênes, quoi, disons, ils ont eu l'Assemblée territoriale et le gouvernement, mais c'était des petits cadeaux, des petits machins qu'on faisait croire qu'on nous faisait donner beaucoup de choses, alors qu'au fond, c'est rien du tout, c'est juste pour cacher quelque chose. On nous donne un certain pouvoir pour cacher ce qu'il y a derrière. Derrière, ils nous maintenaient bien fermement qu'on n'avait pas. On ne pouvait pas bouger. On était vraiment condamnés. On était menottés. C'est comme ça qu'après les jeunes Kanaks sont révoltés. Parce que quand on a connu un peu cette histoire de notre pays, ben, forcément, ça révolte. Et quand je dis ça révolte, c'est qu'on a envie de se battre pour reconquérir tout ce qu'on nous a pris.
Entendre une partie donc de ton documentaire et c'est la personne qui parle, c'est Philibert Tawa. Qui c'est Philibert Tawa?
Oui, alors c'est un documentaire où on entend tout un tas de voix. Hein. Moi, je suis allé sur place, évidemment, interviewer plein de gens qui avaient donc connu cet homme qui s'appelait Pierre de Clercq et tu l'as dit, qui est mort assassiné dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées d'ailleurs, qui est mort assassiné en septembre 1981. Et Philibert Tawa, c'était un Kanak qui maintenant a un certain âge, mais qui, quand il était jeune, a fréquenté donc Pierre de Clercq, a milité avec Pierre de Clercq au sein d'un parti politique qui s'appelle l'Union Calédonienne, il en parle d'ailleurs. L'Union Calédonienne, c'est une longue histoire, c'est le plus vieux parti français, puisque la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire sous tutelle française encore aujourd'hui. Et c'est un parti qui, à la fin des années 70, est devenu, alors qu'il ne l'était pas, est devenu un parti indépendantiste, sous l'impulsion notamment de sa base kanak. Et Pierre de Clercq, en fait, il rentre à l'Union Calédonienne et il va devenir un des responsables de l'Union Calédonienne dans ces années-là. Donc il accompagne c'est une transformation majeure quand même de ce parti, qui est vraiment un des partis encore aujourd'hui les plus importants de Nouvelle-Calédonie, et qui est la composante majeure, ou une des composantes majeures encore aujourd'hui du FLNKS, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui regroupe, qui est la fédération, si vous voulez, le mouvement qui fédère, qui regroupe l'immense majorité des organisations indépendantistes en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc Philibert Tawa, bah voilà, c'est un militant de l'Union Calédonienne, et surtout on l'entend, hein, voilà, c'est quelqu'un qui est kanak, donc il raconte à la première personne ce que ça signifie vraiment. Moi je trouve son témoignage assez fort, parce que là c'est la colonisation incarnée. C'est, on peut parler de la colonisation de plein de manières et en chiffres, etc. Et il y a plein de façons d'aborder ce phénomène qui est un phénomène total, c'est un système, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est bien c'est bien. En tout cas, c'est fort et c'est important de l'entendre à hauteur d'être humain, quoi, quand quelqu'un raconte, voilà. Et puis ce que j'aimais bien dans son témoignage, c'est qu'il explique à quel point, évidemment, la situation des Kanaks était compliquée à l'époque. Donc là, en l'occurrence, il parle des années 60, 70, 80, hein. Le documentaire s'arrête donc au début des années 80, mais il le dit, il y a encore évidemment des liens avec aujourd'hui, et si on prend n'importe quel critère social dans la société néo-calédonienne, qui est une société extrêmement inégalitaire, bah, évidemment, c'est une société coloniale, donc sans surprise, et bah, évidemment, les Kanaks, vraiment, vous pouvez prendre n'importe quel facteur comme ça, social, économique, bah, vous trouverez toujours les Kanaks en queue de peloton, mais très très largement. Donc ça, c'est évidemment au niveau des équipements en tribu, et encore ça, il y a eu des gros progrès faits depuis cette période-là, il en parle, mais c'est au niveau de l'échec scolaire, c'est au niveau des accidents de route, du suicide des jeunes, ouais. Voilà, donc...
D'ailleurs, c'est un des trucs qui est la page de Wikipédia de la Nouvelle-Calédonie finie sur ça, où on parle d'une décrue de PIB de 15-20% des salariés, il y a 15-20% des salariés ont perdu leur emploi. L'ensemble des populations du territoire connaît des problèmes de subsistance, de logement, d'alimentation, d'approvisionnement de produits de première nécessité, les plus touchés étant les classes populaires et les classes défavorisées.
Oui, donc, c'est sûr que quand il y a une crise... En fait, le pays est traversé par une énorme crise politique, économique, sociale, et qui s'est notamment suite à l'explosion de colère qu'il y a eu l'an dernier, hein, on en reviendra, hein, le territoire s'est embrasé, mais la réalité qu'on décrit là, elle existait avant. Hein. Les Kanaks sont vraiment les laissés pour compte de la société calédonienne, alors même qu'ils sont quand même sur leur propre terre, hein. Mais oui. Ça, c'est le sort des colonisés. S'il y avait un chiffre que j'ai pas donné quand même qui dit vraiment à quel point ils sont relégués chez eux, c'est le chiffre des prisons. Tu as dit tout à l'heure, Élise, ils sont à peu près une quarantaine de pourcents, voilà, ils représentent à peu près 40% de la population calédonienne, mais dans les prisons c'est plus de 90%, donc ça c'est vraiment une réalité coloniale, quoi. C'est comment la misère, bah, ça se traduit aussi dans une certaine déshérence, évidemment aussi par de la délinquance, par des problèmes de violence familiale, etc. Comment ?
Et de la traque aussi.
Et de la traque de la part de...
Les États choisissent aussi. Hein. Il y a des violences qui se passent chez les bourgeois, chez les personnes qui sont les plus privilégiées dans une société. Par contre, c'est bien souvent ceux qui sont très tolérés et qui ont des très peu de passages en justice, très
bien
peu de peine.
Donc, bien sûr.
Il y a ça, les deux sont
oui, oui. Et il y a évidemment une justice à deux vitesses, très clairement, en Nouvelle-Calédonie, quoi.
Moi, un truc qui m'a marqué dans le témoignage de Philippe Bertawa, et notamment par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que, alors je ne sais plus quel terme il utilise, mais il parle de l'évolution de la prise de conscience indépendantiste, ou en tout cas coloniale, ou anticoloniale. Et donc, je me demandais si tu pouvais un peu nous parler un peu de ce concept de la décolonisation des esprits. Parce que quand on vient de la famille du dominant, on a tendance à penser que les personnes qui sont concernées par des discriminations ou par des violences coloniales naissent avec une pensée décoloniale, anticoloniale innée. Et je trouvais ça hyper intéressant, le fait qu'il parle d'une évolution des esprits vis-à-vis de ça, et notamment vis-à-vis de la montée du nationalisme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la décolonisation des esprits ?
Alors, je ne sais pas si c'est le terme décolonisation des esprits que j'aurais utilisé, parce que ça, c'est finalement la décolonisation des esprits, c'est un travail permanent et qui, je pense, ne s'arrêtera pas avec l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui finira bien par arriver un jour, ne sera qu'une étape dans un travail de décolonisation, ou en tout cas ne devrait être qu'une étape dans un travail de décolonisation générale. En tout cas, oui, pour répondre à ta question, évidemment que les Kanaks, qu'on n'appelait pas encore les Kanaks à l'époque, mais en tout cas les peuples qui vivaient en Nouvelle-Calédonie, au moment qui ne s'appelait pas non plus la Nouvelle-Calédonie, hein, évidemment, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est un terme colonial, hein, c'est James Cook qui découvre, entre guillemets, l'île au XVIIIe siècle, et comme il est écossais, ça lui évoque, je sais pas quoi, il voit les collines, les prairies, ça lui évoque son Écosse natale, alors il appelle ça la Nouvelle-Calédonie, bon voilà. Donc c'était évidemment une appellation totalement plaquée, qui n'a rien à voir avec la manière dont les gens appelaient leur terre, et c'est pour le coup une réalité tout à fait coloniale, mais enfin voilà, donc la Nouvelle-Calédonie, évidemment, quand les peuples qui étaient là ne se sont pas livrés aux colons qui arrivaient, hein, qui ont pris de plus en plus de place et qui les ont de plus en plus relégués dans les montagnes, qui ont pris les meilleures terres, etc., etc. Bon, voilà. Donc, il y a eu des résistances énormes, il y a eu des guerres même, hein, des guerres importantes. On peut citer celle de 1878, qui est menée par une figure qui est aujourd'hui une figure très importante dans l'imaginaire kanak, notamment auprès de la jeunesse. C'est le chef, le grand chef Attaï. Voilà, donc ça, c'est en 1878. Il y a eu aussi d'autres moments, on peut parler de 1917 avec le petit chef Noël, etc. Bon, mais c'est vrai que, bah, évidemment, ils se sont pris une réponse totalement disproportionnée. Ils avaient évidemment pas les moyens, comme d'autres peuples qui se sont fait coloniser à ce moment-là dans le monde, de répondre à la force de frappe de l'Empire français. Et donc ils se sont fait écraser. Hein. Et derrière, évidemment, ils ont subi. C'est un peuple qui a failli mourir. Qui a failli disparaître. Il faut imaginer que on n'a évidemment pas de recensement de quelle était la population avant l'arrivée des Blancs, avant l'arrivée des Européens. Mais par contre, on estime aujourd'hui que dans les années 20, c'est vraiment le moment où les Kanaks sont, la population Kanak est au plus bas. On sait qu'ils sont à peu près 20 000, ce qui est quand même très peu. Et les estimations qui sont faites aujourd'hui, c'est qu'ils auraient perdu 75 à 95% de leur population. Donc, faut imaginer ce que c'est. On parle vraiment, c'est de l'apocalypse qu'ont connu ces gens-là, qui ont essayé de résister évidemment avec des moyens qui n'étaient pas à la hauteur, mais qui ont résisté et qui se sont fait écraser, qui ont subi évidemment aussi l'arrivée des maladies, qui ont subi évidemment le désespoir, etc. Et donc, ils ont vraiment failli disparaître. Il se trouve qu'ils ont été mis dans des réserves et que ces réserves-là, où clairement il y avait un projet colonial de les y laisser pour qu'ils meurent, pour qu'ils disparaissent. Hein, vraiment, de toute façon, le projet colonial, c'est aussi un projet de négation de l'autre, des peuples colonisés, qui va jusqu'à l'annihilation. Enfin, on le voit dans d'autres.
Oui, c'est ça. Et puis d'ailleurs, juste pour qu'on se rende compte, quand tu parlais de perdre 75% de sa population, c'est comme si en France, aujourd'hui, il ne restait plus que les habitants de la région parisienne.
Oui.
C'est tout. Voilà, et que tout le reste, c'était vide.
Donc c'est un monde qui s'effondre. Et évidemment, ils ont mis des années à s'en remettre et ils sont pas repartis en résistance comme ça. Mais il y a une résilience dans le peuple kanak. C'est un peuple qui s'est donc, ils ont été parqués dans des réserves. Et ces réserves-là, qui étaient, je pense, pensés comme des lieux vraiment d'abandon absolu, ont aussi été des lieux où finalement ils ont pu reprendre des forces peu à peu, la population est repartie à la hausse finalement pour redevenir quand même une population qui certes aujourd'hui est minoritaire mais qui est quand même une population importante, c'est la part la plus importante, ils sont minoritaires mais c'est quand même, tu l'as dit, 40% de la population néo-calédonienne aujourd'hui, il y a je crois à peu près 25% d'Européens et puis le reste c'est d'autres communautés venant de d'autres endroits en Océanie, etc. quoi. Donc voilà. Donc les Kanaks ont été évidemment ont été assommés pendant longtemps et ont un peu à un moment. Je pense qu'il faut le voir comme ça. On fait le dos rond. Et c'est vrai que quand il y a eu une consultation après guerre où on a demandé après qu'on leur ait accordé le droit de vote. Hein, c'est très tardif. Hein, c'est la fin des années 40, début des années 50. Et là, il y a eu un vote pour savoir si la Nouvelle-Calédonie devait rester dans la France. Et à ce moment-là, ils ont voté plutôt favorablement à ce maintien. Et il faut attendre vraiment la fin des années 60, le début des années 70 pour que... Donc vous voyez, il y a un moment où on est déjà passé c'est les indépendances, ce qu'on appelle la période des indépendances, c'est déjà derrière. Ouais. Même si c'est des indépendances qui pour beaucoup sont de façade, mais enfin il y a déjà eu quasiment toute l'Asie est sortie des tutelles coloniales, l'Afrique aussi, même si évidemment on sait qu'il y a des mécanismes néocoloniaux, ouais, exactement, des systèmes de mise sous tutelle différents qui se sont mis en place, voilà, hein, on y travaille beaucoup dans l'association Survie, hein, notamment le système qu'on appelle la France-Afrique, hein, qui est vraiment voilà, une manière de maintenir, comment la France maintient...
Voilà. Un des meilleurs exemples d'ailleurs de la France-Afrique, ouais. C'est le fait que leur devise, même si c'est... Enfin, leur devise et leur banque passent par la France, quoi.
Oui, le franc CFA qui est la monnaie d'une bonne partie des pays d'Afrique de l'Ouest. Oui, bon, voilà. Et qui le reste encore aujourd'hui. Donc, eux, ils arrivent en tout cas. Donc, voilà, il y a un grand mouvement d'indépendance et de colonisation au niveau mondial. Et la Nouvelle-Calédonie, qui est, je l'ai dit, un petit territoire très loin, éloigné de tout, échappe à ça. Et... Et les Kanaks vont se réveiller, en tout cas, une partie du peuple Kanak va commencer à s'emparer vraiment de la question indépendantiste plutôt plus tard, quoi. Voilà.
Alors j'ai une question justement, ouais. Parce que tout à l'heure tu disais que ils avaient voté le fait de rester sous tutelle française, et je voulais savoir, est-ce qu'on parle des loyalistes, donc des partis politiques qui c'est leur démarche de politique de vouloir rester français, ou est-ce qu'on parle d'indépendantistes qui disent on n'est pas encore prêt,
parce qu'il y a ça dans la question. Alors, à l'époque, vraiment, dans là, ce dont je parle, c'est vraiment après-guerre, la question de l'indépendance en réalité ne se pose pas vraiment.
D'accord.
Voilà, elle se pose pas vraiment, les Kanaks sont à peine en train de s'ouvrir, on leur laisse à peine, on commence à peine à leur laisser la place dans le s'exprimer un petit peu dans le champ politique, et c'est d'ailleurs là que va naître l'Union calédonienne, dont la devise, le slogan est deux couleurs, un seul peuple, donc qui est vraiment quand même un parti qui dès le début essaye d'associer et les Européens, les Calédoniens d'origine européenne et les Kanaks, voilà. Mais on n'est pas du tout encore, il y a des réflexions sur l'autonomie mais pas sur l'indépendance, c'est vraiment plus tard, je vous dis fin des années 60, début des années 70, que va commencer à naître une revendication nationaliste, indépendantiste, et qui va de pair évidemment avec une critique de plus en plus forte de ce qu'est le système colonial en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Alors aujourd'hui, pour revenir à ta question du début, aujourd'hui oui, je pense qu'on peut dire, et on l'a vu encore l'an dernier avec une révolte qui venait largement de la jeunesse populaire kanak, aujourd'hui oui, les jeunes kanaks, même s'ils ne sont pas encartés ou très clairement politisés, ils le sont de fait dans leur vécu, il y a vraiment un attachement au chemin qui est maintenant lancé contre la colonisation, au chemin de décolonisation, au chemin d'émancipation qui est lancé. Et même pour les jeunes qui vont peut-être avoir une pensée politique en tout cas une pensée politique qui sera peut-être un petit peu comme ça spontanée,
verte,
voilà.
Ils sont
clairement indépendantistes, voilà.
Oui,
voilà.
Est-ce que c'est pas un peu grâce aussi à l'ouverture vers le monde? Parce que justement, avant la Nouvelle-Calédonie, c'était un petit pays. Aujourd'hui, bon, on a Internet, réseaux sociaux, etc. Et du coup, le fait qu'il soit isolé, en fait, il n'y avait peut-être pas forcément la même conscience et donc le même suivi de mouvement. Et là, aujourd'hui, avec l'ouverture vers le monde, justement, les jeunes, ils ont plus la possibilité de voir, en fait, de ce qui se passe ailleurs, de prendre conscience aussi que, ah, punaise, ok, en fait, on est colonisé. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là aussi
Et d'ailleurs, était-il isolé avant l'internet, puisqu'il y a aussi beaucoup de liens de lutte anticoloniale qui se font entre les territoires différents de la colonie de la France. Par exemple, il y a une très belle histoire entre les mouvements anticoloniaux algériens et caribéens, par exemple, antillais, qui n'est pas super connu, mais du coup, c'est vrai que ça se situe où, ça, dans les luttes indépendantistes?
Il y a plein de questions dans questions dans votre question.
Ouais,
non, pas du tout. Est-ce que... L'émergence à la fin des années 60, début des années 70, et puis ça va monter après tout au long de la décennie 70 et pour exploser à la face du monde dans les années 80, l'émergence de la revendication indépendantiste, elle est effectivement, je pense, alliée en partie à une ouverture sur le monde qui grandit. Et notamment, les premiers qui vont venir porter un petit peu le ferment de la rébellion dans l'archipel, ce sont des étudiants et étudiantes qui avaient été faire leurs études en France, pour certains qui avaient connu mai 68, qui même avaient participé aux événements de mai 68, notamment à Paris, et qui sont revenus avec évidemment des réflexions, des échanges qu'ils avaient partagés, voilà, des partages d'expériences avec des militants politiques en France, mais aussi avec des militants politiques qui pouvaient venir, par exemple, d'une Afrique très récemment décolonisée. Oui. Voilà. Donc ça, c'est évident que cette ouverture au monde, elle joue à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse kanak, c'est pas l'ouverture sur le monde qui fait qu'elle reste en lutte.
C'est la réalité
très concrète de ce que c'est la colonisation de manière quotidienne, de cette humiliation permanente qui dure, qui est renouvelée sans arrêt. Voilà.
Donc, le maintien, c'est dans une certaine pauvreté, dans un certain racisme, etc.
Un racisme systémique énorme en Calédonie.
Pas d'emploi, pas d'argent. Donc en fait, c'est
un système. Voilà. C'est un système, et donc c'est total, c'est globalisant.
C'est de la lutte de survie.
Ah bah, c'est la, c'est de la, il lutte pour survivre, oui, et puis il lutte aussi. On a souvent pensé, enfin une partie peut-être de la classe politique française a pensé à un moment, après les années 80, donc qui sont des moments où, donc je l'ai dit, hein, la revendication indépendantiste explose à la face du monde et qui vont être une décennie très dure, sanglante, hein, en Nouvelle-Calédonie. En réalité, on est dans des années de guerre civile et coloniale. Et à ce moment-là, tout ça va aboutir à des accords de paix en 88, les accords de Matignon. Et là va commencer une politique qu'on a appelée de rééquilibrage. Et une partie de la classe politique française, une partie de l'État français s'est dit, mais il faut atténuer les inégalités sociales sur le territoire, faire des équipements, mettre de l'argent, voilà, au service aussi des populations kanak qui étaient vraiment les laissés pour compte encore plus qu'aujourd'hui de cette société calédonienne. Et ça va faire baisser l'indépendantisme. Et on s'aperçoit, en fait, 30 ans après, que pas du tout. Alors déjà, parce qu'en fait, même si on a réduit un peu les inégalités, elles restent encore énormes, mais aussi parce qu'en réalité, c'est pas juste il y a un problème, il y a un fond social, il y a un fond d'inégalité sociale, il y a un problème social, économique, évidemment majeur, mais en réalité, il y a surtout, pour le peuple kanak, un besoin de laver l'humiliation de la colonisation. Et on voit bien d'ailleurs que même chez les jeunes kanaks qui font partie maintenant, qui vont sortir de la pauvreté, qui vont faire partir de la classe moyenne, qui vont réussir à arriver à un certain niveau d'études, etc., eh ben on s'est aperçu qu'en réalité le sentiment, ou plutôt la revendication, pardon, c'est pas un sentiment, pardon, je retire le mot, la revendication indépendantiste, mais c'est pas du tout, au contraire, elle avait plutôt tendance à se renforcer. Donc on voit bien qu'on n'est pas que sur un problème social économique, il faut le prendre en compte, c'est déterminant, notamment pour comprendre la crise et le soulèvement de l'an passé, de 2024, mais par contre c'est pas suffisant pour expliquer ça.
Il y a un truc qui tilte à mon oreille depuis qu'on discute, c'est sur la question du terme nationalisme. C'est-à-dire que chez nous, en Hexagone, tu me dis nationaliste, je pense à des gens qui viennent d'un milieu privilégié, blanc, très raciste, très très militant.
Et ça, c'est en fonction.
Et justement, quand on regarde le reste du monde, des fois, ça veut simplement dire on a besoin d'être une nation. Et plus être sous tutelle, donc comment elle se...
Ça dépend de là où on regarde, en fait.
Et voilà.
Fenêtre par où on regarde.
Et comme en faisant des petites recherches, j'ai vu qu'il y avait aussi des partis qui étaient loyalistes, donc en Nouvelle-Calédonie, donc qui sont plutôt favorables au fait de rester sous tutelle française. Comment est-ce que tu situes ce terme, en fait, dans la sphère kanak, quoi ?
Ah, est-ce que ces gens-là sont nationalistes aussi, du coup ?
En fait, c'est surtout que je me suis dit, si moi, c'est quelque chose qui m'a fait tilter en préparant l'émission, il y a moyen qu'il y ait des auditeurs qui aient une espèce de double définition selon le territoire d'où on parle.
Alors, c'est sûr, quand on parle du mot indépendantiste, bon, voilà, c'est clair, c'est des gens qui réclament leur indépendance, etc. Et que les Kanaks utilisent des mots nationalistes, mais aussi souverainistes, qui ici sonnent quand même, effectivement, dans des sphères très à droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on peut, évidemment, tu as commencé à le dire, Ludy, évidemment, les mots n'ont pas le même sens selon la place dont on parle. Et évidemment que les Kanaks, quand ils revendiquent un nationalisme kanak, et bien simplement ils revendiquent une nation indépendante kanak. Et ça n'a évidemment voilà, quand on parle de souverainisme, ils réclament la souveraineté, la pleine souveraineté, hein, c'est les expressions qu'on utilise, la pleine souveraineté de leur territoire. Donc ça, c'est évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Et puisqu'on en est à parler des termes, le terme loyaliste, c'est comme ça que s'appelle une partie des anti-indépendantistes. Mais moi j'utilise bien le terme anti-indépendantiste, parce que qu'est-ce que ça veut dire loyaliste, enfin c'est loyal à la France.
Ouais.
Bon, en l'occurrence, les Kanaks sont pas des loyalistes. Ils ont d'autres loyautés. Ils défendent d'autres.
Ça voudrait dire qu'ils auraient pas le droit, en fait, en parlant de loyaliste, ça voudrait dire qu'ils doivent quelque chose à la France. Alors que pour moi, finalement, ils leur doivent.
Ils leur doivent des années et des années, des décennies de souffrance,
voilà,
oui, ça c'est
ça.
Certain.
Mais du coup, pour moi, être loyal envers quelqu'un,
ouais.
C'est
bizarre, même, je veux dire, même dans le contexte français. Tu vois, moi je travaillais dans une école et il y avait et on se posait la question avec ma CPE de la question du voile pour les mamans quand elles nous accompagnent en sortie scolaire. Et en fait, il y avait cette question de représenter l'école. Et moi j'étais complètement d'accord sur le fait que quand tu représente la République française en tant que salarié, en tant que fonctionnaire, tu représentes. Par contre, les citoyens n'ont pas du tout le devoir de représenter la République française. C'est-à-dire que personne ne décide où est-ce qu'on est. Et les gens, s'ils n'ont pas envie d'être chauvins ou d'être dans la représentation de la République, pour moi, c'est un droit de naissance. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, pour moi en tout cas, qui est, je trouve, dérangeant dans l'idée de parler de loyauté sur des populations entières.
Colonisées, en fait, surtout.
Tout à fait.
De parler, mais après, je pense pas qu'il... Oui. De parler de loyauté face à un peuple, face à tes colonisateurs, en fait. C'est comme si on était loyal au bourreau, en fait. Et après, du coup, moi, c'est ça qui me dérange.
Après, il y a très peu de Kanaks, il y en a quelques-uns, hein, mais les Kanaks sont, dans une immense majorité, sont indépendantistes. Hein. Et le terme loyaliste ne vient pas forcément de la petite minorité Kanak favorable au maintien de la France.
Ça vient peut-être pas forcément d'eux, mais plutôt justement des colonisateurs.
Voilà, ça c'est plutôt revendiqué par les populations européennes, notamment. Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, je te demandais du coup de nous resituer sur la question du nationalisme, parce que effectivement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, que j'ai trouvé très joli, très beau quand j'ai commencé à faire des recherches, c'est le fait que chez les indépendantistes kanaks, il y a le principe qui arrive très tôt, donc dans les accords de Nouméa, donc qui suivent de quelques jours, je crois, les accords de Matignon là dans les années
80. Ah non, c'est 10 ans.
C'est 10 ans, pardon. Toutes mes excuses, j'ai mal lu.
88, les accords de Matignon, qui sont en fait des accords de paix, qui vont ramener la paix dans le territoire après donc une décennie, hein, je l'ai dit, hein, une décennie particulièrement brutale qui a fait jusqu'à 90 morts, enfin voilà, quelque chose de très très dur et qui a traumatisé, hein, évidemment, toute une génération. Ça, c'est les accords de Matignon, accords de paix, et 10 ans plus tard, on a les accords de Nouméa, et les accords de Nouméa, c'est des accords très importants dans l'histoire même française, hein, pas seulement calédonienne, parce que c'est vraiment des accords de décolonisation. Ouais. C'est des accords qui sont signés entre les forces indépendantistes du territoire, les forces anti-indépendantistes et l'État, et c'est la première fois vraiment que l'État français s'inscrivait dans une démarche de décolonisation par le haut. La France, là, aurait pu, pour la première fois, avec cet accord de Nouméa signé en 1998, mener à bien la décolonisation d'un de ses territoires. Et évidemment, hélas, vous devez le savoir, l'histoire ne s'est pas passée comme ça.
Et voilà. Et donc, dans ces accords de Nouméa, il y a la question du destin commun, qui est l'objectif de construire, quel que soit l'avenir institutionnel de cet archipel du Pacifique, c'est-à-dire que soit d'être dans l'indépendance, soit dans le maintien au sein de la République française, une communauté de destin pluriethnique. Et donc c'est pour ça que ça m'intéressait de dire que la question de vouloir être une nation ou d'être nationaliste dans la bouche d'un Kanak indépendantiste, ça... Ils auraient pu d'ailleurs dire bah nous on a besoin là de se retrouver entre nous et de créer quelque chose qui une culture générale qui se base sur la culture kanak. Et en fait, dès les années du coup dès 98, ils commencent à parler de ce concept qui est le destin commun et demandent nous on veut une nation, mais on veut une nation qui est plurielle et qui intègre effectivement toutes les populations du territoire et des voisins, puisque quand on est un territoire, on a des voisins et que des fois, on commerce ensemble, on tombe amoureux et voilà.
Alors c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que le nationalisme kanak n'est pas un nationalisme exclusif. Mais ça date, l'accord de Nouméa, c'est l'aboutissement d'années de lutte, d'échanges, de d'énergie, de force à mettre aussi à convaincre les uns et les autres, parce qu'en fait cette histoire-là, elle commence dès le début des années 80. Dès 1983, il y a une table ronde qui est organisée dans un petit village là dans le nord qui s'appelle Nainville-les-Roches. On appelle ça la table ronde de Nainville-les-Roches, et c'est avant toute la période d'explosion des années 80. C'est avant bien des morts, bien des blessés, bien des prisonniers, etc. Et cette table ronde, il y a un double mouvement qui est fait. L'État reconnaît aux Kanaks leur droit à l'autodétermination. Tout à l'heure, Élise a parlé de droit à l'autodétermination. C'est pas le territoire qui a un droit à l'autodétermination. C'est le peuple colonisé. Ça, c'est le droit international. Dans le droit international, les peuples colonisés ont le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire à dire, ok, nous avons été colonisés, comment on se sort de cette situation coloniale. Voilà. Et donc, ils peuvent ça passe pas forcément par l'indépendance, mais en tout cas, l'autodétermination, c'est juste la possibilité de dire comment nous, comment on voit l'avenir, comment on ferme cette parenthèse tragique qu'est la parenthèse coloniale. Voilà. Et donc, évidemment, c'est le peuple kanak là qui est dépositaire, c'est eux, hein, le peuple colonisé, c'est eux le peuple autochtone, c'est eux le peuple premier, on en a parlé en début d'émission. Sauf que c'est un petit peu particulier la Nouvelle-Calédonie, parce que évidemment, dans tout un tas de colonies, notamment en Afrique, les colons, ils représentaient très 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 peu de personnes. Là, la Nouvelle-Calédonie, c'est comme l'Algérie, hein, une colonie de peuplement. C'est-à-dire qu'on a amené, il y a eu une politique volontariste pour amener des populations de France et d'ailleurs, et ça a fini par mettre les Kanaks en minorité sur leur propre terre. Tu l'as dit, hein, une quarantaine de pourcents aujourd'hui.
Ce qui n'est pas le cas du coup avec l'Algérie, où l'Algérie, c'est une personne sur dix seulement qui est colon français.
Qui l'était au moment de la guerre d'Algérie. Donc c'est très particulier, et donc ça rend évidemment cet exercice du droit à l'autodétermination très compliqué. Mais les Kanaks auraient pu tout à fait s'arc-bouter et dire attendez, qu'on soit 40%, 30%, 52%, qu'importe. De toute façon, le droit international est de notre côté et on va faire valoir notre droit à l'autodétermination. Autant dire que ça voulait dire être indépendant, parce qu'ils sont vraiment, et ça fait, les Kanaks, ça fait 40 ans que de toutes les manières possibles et imaginables, c'est presque caricatural, ils demandent vraiment à une majorité mais écrasante l'indépendance. Voilà, ils disent la décolonisation pour nous c'est l'indépendance. Ils le font en votant, ils le font en ne votant pas, ils le font en se révoltant, et cette histoire ne cesse de se répéter depuis 40 ans. Donc je veux dire, à un moment, on sait ce que veulent les Kanaks. Je veux dire, ils n'ont pas bougé d'un iota depuis un petit moment. Voilà. Donc, s'ils n'ont pas l'indépendance, c'est justement parce qu'ils ont fait une offre très généreuse. Donc, je reviens en 1983, donc on est longtemps avant l'accord de Nouméa de 98. 83, table ronde de Nainville-les-Roches. Les représentants, à l'époque, ce n'est pas le FNKS, c'est le FI, le Front indépendantiste. Les représentants du Front indépendantiste arrivent en disant « Reconnaissez-nous comme le peuple premier, reconnaissez notre droit à l'autodétermination et nous, en retour, on est prêt à reconnaître les autres. On n'a pas envie de faire un pays. On sait très bien que il y a des gens qui vivent avec nous, certains qui sont là depuis plusieurs générations, 150 ans, hein, pour certaines familles. Et ben, on est tout à fait prêt, ces gens-là, à construire le pays avec eux. Donc, le droit à l'autodétermination, on le partage avec vous, avec les personnes installées durablement, pas ceux qui viennent de déménager, évidemment, ceux installés durablement, mais pas pour, évidemment, pas pour que vous nous empêchiez de devenir indépendants, mais pour construire le futur pays ensemble. Et cette offre intelligente, très généreuse, évidemment, en fait, l'État et les anti-indépendantistes ne vont cesser de s'en servir contre les indépendantistes, contre le peuple kanak, pour les empêcher d'accéder à la pleine souveraineté de leur territoire. Et cette histoire, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et un des gros enjeux en Nouvelle-Calédonie, c'est l'histoire du corps électoral, c'est-à-dire du corps électoral local, c'est-à-dire qui peut voter aux élections locales, qui peut voter aussi au moment des référendums. Hein. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu des référendums il n'y a pas très longtemps. Eh bien, l'idée, c'est non. En fait, OK, on est en France, donc n'importe qui, n'importe quelle auditrice, auditeur avec un passeport français peut venir en Nouvelle-Calédonie. Il suffit de se payer le billet qui est très cher. Mais si vous avez les moyens de vous payer le billet, vous pouvez rentrer en Nouvelle-Calédonie comme vous rentrerez dans n'importe quel territoire français. Mais non, vous ne pouvez pas tout arriver en ignorant tout de l'histoire de ce pays et du processus de décolonisation en cours dans ce pays et décider, ah ben non, ici, c'est la France et moi, je vais voter pour le devenir de ce pays. Ça, c'est pas possible. Et c'est ce gel du corps électoral, ce corps électoral gelé, c'est vraiment essentiel, c'est un acquis essentiel de la lutte du peuple kanak, et c'est ça qui a été remis en question l'an dernier par le gouvernement en 2024, et c'est ça qui a remis le feu aux poudres, exactement comme dans les années 80.
Parce qu'il y a une espèce de violation des droits internationaux, du coup. Parce que visiblement, ils n'ont pas été vraiment écoutés et pris en considération.
Alors, c'est clairement une violation dans le sens où on n'a pas écouté les désirs, hein, les revendications du peuple concerné par la colonisation. Mais après, évidemment, on y oppose un autre droit. C'est qu'on y oppose de dire, mais attendez, c'est un homme ou une femme, un être humain, une voix. Hein, voilà, et on oppose cette espèce de... En fait, la Nouvelle-Calédonie, tout à l'heure, on a reparlé, on a débattu des mots nationalisme, souverainisme. La Nouvelle-Calédonie, ça oblige, la Kanaky Nouvelle-Calédonie, ça oblige à réfléchir un certain nombre d'évidences un peu autrement. Voilà. Et c'est vrai que le principe un être humain, une voix, ce principe qui paraît évidemment la base d'une démocratie, dans un contexte de colonisation de peuplement, ça paraît beaucoup plus compliqué. Je vais vous raconter, si j'ai le temps, une toute petite histoire. C'est une blague qu'on prête à un leader kanak qui s'appelait Yewene Yewene dans les années 80. Et il raconte l'histoire, il racontait apparemment, moi je ne l'ai pas rencontré évidemment cet homme, mais il racontait une histoire qui s'appelle l'histoire de la case. C'est un vieux qui est assis au bord d'une case et puis il y a un blanc qui passe, alors il lui offre le café. Puis le blanc le revient le lendemain avec sa femme, alors pareil, il les invite, il leur offre le café. Puis le lendemain il va revenir avec sa femme et puis ses enfants, allez on repaye le café. Et puis chaque jour il va revenir avec un peu plus de monde, ses cousins, ses grands-parents, ses parents, sa tante, etc., ses neveux. Et puis à la fin ils sont 30 dans la case et ils disent, maintenant on va voter pour savoir à qui est la case. Ah voilà, ça, c'est, ça, ça dit quelque chose de la situation des Kanaks en Nouvelle-Calédonie.
Alors déjà, je voulais rebondir sur le fait que, effectivement, c'est pas anodin que tu parles du fait que la Nouvelle-Calédonie en soi remet en question, puisqu'ils sont sous un régime qui en fait, est un régime de droit français. Alors je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, c'est du latin. Et en gros, c'est un régime légal, un état de droit qui dit justement « c'est spécial ». C'est littéralement ça, c'est spécial, on ne peut pas gérer légalement cet espace de la même façon que les autres. Et tu parlais beaucoup de droit de vote. Il faut savoir aussi que dans l'histoire du droit de vote, de l'accès au droit de vote des Kanaks, ça ne s'est pas fait du tout au rien, du rien au tout. C'est-à-dire que les Kanaks obtiennent la citoyenneté française et donc le droit de vote en trois temps. D'abord limité à 267 membres de l'élite mélanésienne, chef, c'est-à-dire les chefs coutumiers, anciens combattants ou religieux tels que curés, diacres ou pasteurs, en 1946, puis élargi à 60% des Mélanésiens en âge de voter en 1951 et finalement à toute la population majeure en 57. Donc ça s'est pas fait comme ça, donc c'est intéressant de voir aussi que ça fait écho à tout ce que tu disais. Effectivement, ce terme-là, Mélanésien, ça, c'est un regroupement de peuples et notamment dont les
Mélanésiens, oui, c'est un terme qu'on a, qui a été c'est un terme pareil, c'est les Blancs, hein, qu'on appelait les habitants de ces îles-là, les Mélanésiens. Ça vient tout simplement, ça voulait dire les îles noires, Mélanésie. Mmh. Donc c'était pas vraiment quelque chose de, c'est quelque chose qui a évidemment aucun fondement scientifique réel. Mais il se trouve que les peuples des pays Mélanésiens se sont emparés de ce terme-là et le revendiquent aujourd'hui, notamment les Kanaks.
Et est-ce que, justement, sur la question de l'appropriation ou la réappropriation des termes coloniaux, est-ce que ce serait pas le bon moment pour écouter le deuxième extrait de Un martyr kanak?
Oui, et tout à fait, et qui revient justement sur le fait que le nationalisme kanak n'est pas un nationalisme exclusif.
Parler au départ de l'indépendance du pays, et petit à petit, il a fallu préciser le type d'indépendance, et puis c'est là qu'on est arrivé à l'indépendance kanak, et ça a été un point important. L'indépendance kanak, c'est pas l'indépendance seulement des Kanaks, c'est l'indépendance du pays où il y avait une prééminence des Kanaks dans le pays. Et ça, c'était pas rentré dans les esprits, hein, quoi. Il a fallu faire des réunions, des congrès, des explications pour arriver là. Ça s'est continué après la mort de Pierre, mais je veux dire, ça a été lancé à ce moment-là. D'ailleurs, la phrase qu'ils ont retenue, que les journaux ont retenue après l'assassinat de Pierre, c'est cette phrase où il dit bien que l'indépendance, c'est une indépendance où il y a cette prééminence du peuple kanak, mais c'est une indépendance pour tous, quoi.
Moi, je pense que pour moi, ce qui reste le plus important de Pierre, c'est ça. Mais c'est ce qu'il dit là, sur la non-domination d'une ethnie sur une autre, là. C'est cet héritage-là. Et c'est celle-là qu'on est en train d'essayer de transporter aujourd'hui. Là, hein. Et tu te rends compte, lui, il parle de ça il y a combien de temps? Il y a combien de temps de ça? 40 ans.
Plus de 40 ans, oui.
40 ans. 40 ans après, là, c'est ça. La problématique auquel on est confronté, voilà ce que dit Pierre.
Alors attends, du coup, il y a le poster et il y a la définition. Alors du coup, il y a deux. Alors il y a.
Ça, alors, qu'est-ce qu'on voit là?
Alors du coup, on voit le visage de Pierre de Clercq avec le terme kanak ne désigne pas une ethnie ni une race.
L'objectif le terme kanak ne désigne pas une ethnie ni une race. L'objectif d'une société kanak signifie la construction d'un peuple multiracial, solidaire et fraternel. Cela ne veut pas dire que la future société sera entièrement mélanésienne. Le droit à la différence sera respecté, mais nous ferons en sorte que cela n'entraîne pas de rapport de domination d'une ethnie sur l'autre. Pierre de Clercq, Les Nouvelles Calédoniennes, 22 juin 1979.
Pourquoi cette phrase est importante aujourd'hui, plus de 40 ans après la mort de Pierre de Clercq?
Ben moi, elle est importante pour moi, c'est parce que le terme kanak, il est en cours de définition, c'est comme ça que je le dis.
Florenda Niricani, militante Union Calédonienne et animatrice d'éducation populaire.
C'est eux qui nous ont appelés kanak au final, c'est pas nous. Et puis nous, on se l'a approprié et on l'a revendiqué. Et du coup, on s'est mis debout pour dire, ben nous, on existe. Kanak, au final, je veux dire, si on prend étymologiquement, on va dire c'est un terme hawaïen. Ou moi, en tout cas, ce que j'ai entendu, ça veut dire homme. Donc, Kanak, c'est homme. Donc, du coup, je me dis, bon, ben, homme, on peut avoir homme, femme, pour moi, je veux dire, c'est être humain. Et du coup, je me dis, pour continuer à nourrir et puis continuer à se projeter, c'est nous, on construit une nation. Donc, ce pays-là, il va s'appeler Kanaky. On l'a déjà décidé, nous, les indépendantistes. Mais le mettre en haut, c'est aussi mettre au même titre que quand on met nationalité française. Je veux dire, c'est-à-dire que le terme Kanak, il est devant, il représente la nation de tous les gens qui vivent dans ce pays. Mais ça entraîne pas, on te demande pas d'être Kanak, de te changer en nous, on pourra pas faire ça. Mais dans la manière de se projeter, Kanak, faut plus que c'est quelque chose qui nous appartient à nous, les autochtones. C'est quelque chose qu'on a partagé avec les autres, où chacun doit avoir sa place. Il y a des gens qui ont fait cette gymnastique intellectuelle-là, déjà. De dire que, ben, en fait, moi, je garde mes origines, je suis Zoreille, je suis de Bretagne et tout, mais je suis Kanak. Il y a très peu de gens qui connaissent cette définition-là. Moi, je veux dire, quand je l'ai emmené à des copains qui étaient des BBR, enfin des bleus, blancs, rouges, quoi, des non-indépendantistes, ben, du coup, ils sont choqués de la phrase. Mais ils sont choqués, ça les interpelle. Et du coup, si on peut déjà commencer à engager le questionnement chez les gens, c'est de l'éducation, hein, c'est-à-dire c'est de l'éducation, c'est de la déconstruction de la pensée, de la décolonisation aussi mentale. Le terme Kanak, comment lui, il le désigne, moi, je veux dire, je kiffe, quoi.
On a parlé au départ d'indépendance.
Pardon. C'est reparti.
ouais, on peut écouter en boucle. Alors, vous venez d'entendre du coup le deuxième extrait de ton documentaire, Benoît, qui s'appelle Pierre de Clercq, un martyr Kanak. On a 5 minutes pour finir cette émission. Donc, je voudrais dire déjà que l'extrait qu'on a entendu donc des écrits de Pierre de Clercq, c'est dans le journal Les Nouvelles Calédoniennes.
Oui, c'est une interview en fait. Hein. C'est l'extrait d'une interview et c'est la phrase aujourd'hui qui est restée très forte en Kanaky-Nouvelle-Calédonie et que revendique encore une part du monde indépendantiste. Parce que justement, elle dit, en fait, en deux mots, c'est évidemment à partir du moment où on se dit bah, on va construire un pays indépendant et les indépendantistes choisissent le mot Kanaky, évidemment, en référence au peuple Kanak pour ce futur pays, bah, évidemment, qu'après on dit bah, on va y inclure les autres communautés, bah, évidemment, ça veut dire Kanak, qui aujourd'hui désigne quand même plutôt l'ethnie l'ethnie du peuple premier, bah, évidemment, ça va devenir une nationalité et donc il va falloir y inclure les autres. Et donc c'est pour ça que, hein, on entend Florenda Niricani, hein, qui est la femme qui parle là, et qui dit, ah oui, je suis Kanak, je pourrais être Kanak d'origine bretonne, Kanak d'origine, voilà. C'est-à-dire que ça devient d'un seul coup autre chose, voilà, ça construit un destin commun. Pour le
exactement,
coup.
Et avec, et pourquoi je parle de, je voulais revenir sur le papier, parce que, en fait, ce journal-là, il a été paru en papier du 15 juin 1971 au 16 mars 2023, il existe toujours en ligne, et depuis la disparition de son concurrent, la France Australe, en 1979, c'est le seul journal de Nouvelle-Calédonie.
Alors, ce n'est pas le seul journal de Nouvelle-Calédonie, mais c'était le seul quotidien papier. Il a disparu, effectivement, il ne paraît plus maintenant, il n'est plus que sur le web. C'était un journal dont, honnêtement, la disparition, je pense, n'a rien d'attristant. C'était un journal de piètre qualité et surtout extrêmement partisan. Il se trouve qu'effectivement, de temps en temps, ils étaient bien obligés de donner la parole aux anti-indépendantistes, mais enfin, c'est plutôt un organe qui était largement au service du camp BBR, comme disait Florenda.
Ouais. J'aime beaucoup parce que ça le me fait penser à bébé et R pour dire rien. Donc j'ai bien aimé. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était important de préciser que ce n'est pas un journal parmi
d'autres.
Centaines,
non, il y a un problème d'information, effectivement, de comment est traiter l'information et comment vit. Ça manque de médias en Nouvelle-Calédonie, ça c'est sûr. Et notamment le média libre.
Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on arrive, il nous reste peut-être 2 minutes. De quoi tu as envie de nous parler? Quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas...
Il y aurait beaucoup à dire. Je vous invite, si ça vous intéresse, l'histoire de la montée du nationalisme Kanak, on l'a dit en début d'émission, je vous invite à aller sur le site de survie.org et aller dans la rubrique publications et podcasts et vous retrouverez ce documentaire, Pierre de Clercq, un martyr Kanak, et l'autre, Le combat ne doit pas cesser, qui va encore plus loin à travers la figure, une figure d'Éloi Machoro, un grand leader indépendantiste des années 80, qui revient plus loin justement sur cette histoire, sur l'histoire de cette lutte qui est celle du peuple Kanak et qui est plus largement celle de l'indépendance de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Je voudrais juste vous dire qu'il y a un collectif sur Marseille qui s'est formé l'an dernier justement suite au soulèvement insurrectionnel qu'a connu l'archipel après le 13 mai 2024. C'est le collectif Solidarité Kanaky 13, voilà, c'est facile à retenir, et on organise, donc on fait régulièrement des événements pour essayer de faire vivre un petit peu la solidarité avec le peuple Kanak ici à Marseille. Il y a des collectifs un peu partout en France. Et on organise le 28 juin à la Fraternité, c'est à la Belle de Mai. À la Fraternité, on organise une grande journée. Ça commencera vers 14h et ça continuera a priori jusqu'au soir. Une grande journée de soutien à la Kanaky.
C'est où, au rez-de-chaussée, premier étage.
Ce sera même un peu en extérieur. C'est une ancienne école en fait, la fraternité.
D'accord. Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc c'est 7 boulevard de Burel, voilà, du côté de Plombières par là.
Eh ben merci beaucoup.
J'avais juste une dernière petite question. Tu nous as pas dit de quelle date sont les podcasts?
Alors de 2020, celui de sur le combat ne doit pas cesser, et 2023. Okay. Celui sur Pierre de Clerc.
À retrouver donc dans la section podcast de survie.org. Merci beaucoup, Benoît,
merci.
D'avoir participé.
Merci de votre invitation.
Et pour quitter cette émission, tu nous as choisi un morceau de Kaneka, qui est un style kanak musical issu des années 80, qui a commencé dans les années 80.
Ouais.
Et donc, on va s'écouter ça pour se dire au revoir. Merci beaucoup. Et puis, à mardi sur Mardi Namouk, sur Radio Galère.
Ouais, c'est le premier mardi du mois. À bientôt.
Ah oui, pardon. À bientôt.
Vous étiez donc sur Radio Galère 88.4 à l'émission Kixa, et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne écoute. Ces enfants.